Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bumpy.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Pour célébrer la nouvelle année en ces temps un peu austères, quoi de mieux que de prendre le large ensemble et partir pour de nouvelles aventures. Au programme de PO ce mois-ci, des tempêtes, des héros et des héroïnes, l'océan déchaîné, un pirate et un disparu. Replongeons-nous dans l'une des courses les plus marquantes de l'histoire, le Vendée Globe 96-97. Et contrairement au vaillant marin solitaire dont nous allons vous raconter l'histoire, de mon côté, je préfère la compagnie et c'est pourquoi je suis très bien entourée avec Thibaut.
Bonjour à tous.
Younes.
Salut tout le monde.
Et Olivier.
Bonjour.
Et puis surtout, bah, la bonne année, hein.
Ah bah oui, c'est vrai. Bonne année tout le monde.
Bonne
année.
Meilleure année.
On a encore le temps, pourtant on est fin janvier.
Oui, bah,
non, c'est ma blague, janvier. J'allais dire qu'on était le 17 octobre.
Ah, merde. Et bah, désolé.
C'est dommage parce que c'était une excellente blague.
Et
hein.
Oui, ouais. Tout à fait.
Je me marre.
Et pour commencer, je vous propose d'écouter un petit extrait de Stade 2. Et c'est en 1989 que ça se passe, donc ça va être au moment du départ du premier Vendée Globe. Et je trouve que ça dit beaucoup de ce qu'est cette magnifique course. Écoutez.
On va commencer par la voile maintenant, Jean Mamère, avec une course complètement folle. On dit que c'est la course du siècle, c'est-à-dire le Vendée Globe Challenge. 13 navigateurs sont partis cet après-midi pour faire le tour du monde sans escale, sans assistance.
Alors moi, je résumerais ça en un seul mot, je dirais que c'est l'aventure avec un grand A. Alors, ils vont partir pendant 4 mois, vraiment tout seuls, sans croiser un qui vive. Alors, vous me direz, c'est l'histoire de Moitessier, c'est l'histoire de Slocum à la fin du 19e siècle, c'est l'histoire des grands qui nous ont fait rêver de la mer. C'est un peu de la folie aussi pour certains, mais si ça correspond à la folie de Chichester, par exemple, pour lui, la définition de la folie du marin, c'était de dire il part à condition de ne pas rencontrer les autres. Donc c'est un peu ça, ils vont partir vraiment 4 mois tout seuls. Alors, ils vont, eux, vraiment faire rien comme les autres, et je vous propose de les voir. Ce sont 13 hommes hors du commun qui ont quitté aux alentours de 15h les Sables d'Olonne pour le plus grand périple, le tour de la Terre.
Ouais,
mon gars.
L'aventure, enfin, bon, franchement,
avec un grand A.
Avec un grand A.
Ça vous donne envie, hein, avec un grand E.
Aventure.
Tout à fait, avec un grand E.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire un peu justement ce que c'est? Là, ils l'ont un peu dit, mais c'est quoi ce Vendée Globe? C'est quoi cette course? Quand est-ce qu'elle a été créée?
Alors,
qu'est-ce qu'on y fait?
On donne pas son avis sur, tiens,
ah ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on aime ça?
C'est vrai, j'ai oublié.
La voile, comment ça se passe?
Ah bah ouais, j'ai oublié de faire une question, c'est la rentrée. Okay,
dès qu'il n'y a pas un truc sur une fiche, on ne peut pas le faire.
Bon, bah, il faut trouver une question alors.
Est-ce qu'on aime les bateaux?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous chanter Maman les petits bateaux, Olivier?
Maman les petits bateaux non. Qui vont ça, sur l'eau ont-ils des ailes?
Des jambes? Des jambes.
Ah, mais pas
mais
des
non,
on s'en fout, ce sera coupé.
S'ils en avaient, ils marcheraient.
Pas.
Bon, bref.
Ouais.
Bah, ok. Alors, le Vendée Globe, ça vous évoque quoi? Et je commence par Younes.
Ah, bah voilà, merci. Eh ben, l'aventure.
Avec, merci,
avec un grand A.
Très bien.
Avec un grand A. C'est non, bah évidemment, ouais, une course mythique. Pas forcément quelque chose qui est accessible. J'ai l'impression quand même que c'était quelque chose qui, au départ, quand j'étais plus jeune, était en fait des petites parenthèses comme ça à la télévision. Et en fait, ça commençait à prendre du poids un petit peu à la télévision et ça créait de l'audience. Et forcément, en fait, il y a eu des personnalités aux premières arrivées qui ont commencé à être assez marquantes. Et ça a intéressé tout le monde. Et bon, je me suis... en tout cas, dès qu'il y a un départ, je m'y intéresse et je suis régulièrement, en fait, les classements. Donc, c'est de dire que cette course est intéressante.
Olivier ?
Eh bien moi, le Vendée Globe en ce moment, j'en sirote pas mal, car ma copine, figurez-vous, de Vendée. Alors du coup, et en plus, elle a dans l'idée de faire de la voile. Donc,
C'est beau ça.
Bah, oui, c'est très beau. Bien lui en prend. Mais du coup, en ce moment, en plus, c'est le Vendée Globe. Au moment où on enregistre, on est très peu de jours. Enfin, au moment où on enregistre, au moment où sort.
Avant la victoire de Jean Le Cam.
Dans quelques jours, je pense qu'il y aura les premiers arrivés au Sable d'Olonne. Donc j'ai pu voir ce que c'était le Vendée Globe au sable. C'est incroyable. C'est-à-dire que même en temps de Covid, on ne parle que de ça au Sable d'Olonne. Donc voilà, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire évidemment que ce sont des grands barjots, des grands malades. Pour le faire, je pense que, enfin, on se rend pas compte à quel point, moi je suis allé voir les bateaux avant le départ, c'est des trucs tout rikiki, même si maintenant ce sont des Formule 1, on aura le temps d'y revenir.
Oui.
Mais faire 3 mois là-dedans, clairement, c'est impossible. C'est vraiment l'aventure avec un grand A. Oh.
Vous êtes originaux tous. Ouais. Thibaut ?
L'aventure, oui, et la folie avec un grand F. Déjà, vous remarquerez qu'Olivier dit les sables pour les Sables d'Olonne. Ouais. C'est un initié. Comme les champs pour les Champs-Élysées. C'est important.
Ouais. Comme Saint-Gerre pour Saint-Germain-en-Laye.
Place de la Rep pour la République.
Bien sûr.
Et ouais.
Moi, c'est un mélange des deux. Je dis l'aventure et la folie parce que quand j'étais petit, c'était une parenthèse, comme dit Younes, de quelques semaines, mais je me rendais pas du tout compte de la grandeur de l'exploit. Là, à chaque édition, maintenant, je m'y intéresse de plus en plus et je me dis, mais ce sont des grands malades, en fait. C'est complètement fou comme exploit.
Oui, ça ressemble irrationnel au départ, en fait.
Ne crie pas, par contre, Younes, calme-toi.
Donc, il y a cet élément. Alors, maintenant, on le médiatise beaucoup et on apprend à reconnaître et à comprendre ses exploits, mais malgré tout, je trouve qu'on se rend pas encore tout à fait compte de ce qu'ils font pendant 4 mois. En fait, c'est dingue. Il y a peu d'aventures aussi folles que ça dans le sport aujourd'hui.
Donc, à cette échelle, moi, j'ai tendance à comparer aux 24 heures du Mans. Ce rapport un petit peu d'endurance. Alors évidemment, on n'est pas du tout à la même échelle, mais sur le rapport un petit peu exploit et ce rapport un peu laboratoire, on en reparlera tout à l'heure. Ouais.
Mais faut savoir que, enfin, c'est encore pire parce que là, tu ne dors pas pendant 3 mois. Enfin, j'exagère presque
pas.
Sûr.
Il n'y a pas de relais.
Le sommeil de 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, mais enfin, oui. C'est physiquement impressionnant. Et toi, Sarah ?
Ben moi, je trouve que c'est l'aventure avec un grand A.
Ah, c'est original.
Non, moi, je suis pas beaucoup, pour être honnête, le Vendée Globe. Je connais pas très bien, de la voile, tous ces sports là sur l'eau.
Mais on va tout te raconter.
Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir et de bien travailler.
Oui. Mais ce qu'on n'a pas fait. Hein.
mais Younes est venu quand même.
Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que quand je vois comment je suis, quand je passe 2 jours sans parler à personne et 2 nuits de suite où je dors que 4 heures et que je suis déjà complètement folle dingue et que je...
Tu parles de ton confinement ou...
En partie, mais...
En partie, oui.
Enfin, ouais, voilà. Enfin, je me dis, mais comment tu deviens pas complètement ouf sur ton bateau ? Et d'ailleurs, je pense que tu deviens un peu ouf. Enfin, il y a un moment, t'es un peu...
On y pense tous. En plus, on a tous eu une aventure en commun où on s'est isolé. Alors, c'est bien tout relatif comparé à leur aventure. C'était moins dangereux. Mais quand même, on voit très bien qu'on a besoin des autres et qu'on a besoin de communiquer, ne serait-ce que... Même si on se gueule, on a besoin de ça en fait.
Mais je pense qu'il faut avoir des personnalités particulières. Je suis pas sûre d'être capable de désigner les caractères et tout, mais il y a quelque chose de très particulier à la fois dans le courage et de faire ça seul aussi, parce qu'il y a des tours du monde qu'on peut faire à deux, peut-être qu'on en parlera un peu. Enfin, tu peux aussi faire des grands exploits, mais voilà. Enfin,
c'est vrai. Et si j'osais, je dirais c'est une aventure avec un grand A. Je sais pas si on peut aller jusque là.
Non.
C'est vrai qu'on en parlait sur l'épisode de Florence Artaud où elle se disait elle-même libre une fois qu'elle était sur la mer.
Ouais. Tu vois.
Donc c'est une philosophie de vie et de d'envie de liberté très à part.
C'est un appel du large.
Ah, Florence.
Ouais. Alors que là, on demande qu'une chose, c'est de se retrouver collé serré dans le RERA.
Ouais.
On en rêve.
Mais s'en fout.
RERA qui va à Saint-Germain-en-Laye.
RERA comme aventure.
Comme aventure.
Oui. Ah, oui.
Alors, j'en reviens à ma question. Pour commencer, racontez-moi ce que c'est.
Alors, déjà, ce qu'on aime dans le Vendée Globe, c'est le nom.
Bah ouais.
Vendée Globe ou Vendée Globe ?
Ouais. Alors, moi, je me suis quand même posé la question si c'était pas une volonté de départ de faire un jeu de mots
bien
façon
sûr.
Salon de coiffure.
C'est comme les deux vaches.
Voilà. Ou infinitif. Pour un salon de coiffure.
Ouais, infinitif. Moi, j'allais chez Diminutif.
Ah ouais, Diminutif aussi, ouais.
Mais ça m'intéresse pas grand monde.
Bon. Mais alors. À partir du moment où ils ont osé le jeu de mots, je me suis dit pourquoi pas.
Mais ce jeu de mots fonctionne parce que c'était en Vendée quand même.
Hein, oui,
sinon, ça fonctionnait vachement moins bien.
Plus compliqué avec Finistère Globe.
Voilà, très bien. Je pensais que t'allais dire Lozère.
Lozère Globe, j'avais mis. Guadeloupe Globe, oui.
Après, on fait bien le Paris-Dakar en Argentine.
N'hésitez pas à prendre vraiment du temps sur ces questionnements.
Non, mais alors, qu'est-ce que c'est le Vendée Globe en 2 mots, donc, et non pas en 3? C'est le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, sans assistance, sans bateau, sans navigateur. C'est unique au monde.
C'est très drôle.
Non, mais donc, quand on dit tour du monde, c'est vraiment qu'il y a un type qui est sur son voilier pendant 120 jours, qui fait le tour du monde en partant de Vendée et qui va revenir en Vendée. Déjà, c'est un peu con, il revient au même endroit où il vient, mais bon, pourquoi
c'est
pas.
C'est parce que la Terre, elle est ronde.
Après, c'est plutôt sympa, la Vendée, je me suis laissé surprendre.
Ouais. Enfin, la Terre est ronde, ça reste à prouver, Sarah. Et donc, il passe par le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn.
Alors, trois. Il y a le Cap Lewin en Australie. C'est les trois bornes, c'est les passages obligés du tour du monde.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est un peu le checkpoint obligatoire.
Tout à fait. Alors, il y en a d'autres, des grandes courses à la voile.
Oui.
Mais soit elles sont en collectif, c'est-à-dire que ce sont des tours du monde qui sont effectués à plusieurs, soit
ils
sont seuls sur
ça.
Le bateau, mais ils ne font pas le tour du monde en entier.
Mais est-ce que je pourrais faire un tour du monde collectif, mais sans rien faire?
Si on essaie de faire un tour du monde tous les 4, 5 avec Chloé, 6 avec Mickaël, je pense qu'on coule.
Minute 3.
Minute
on sort près du port.
On sort près du port.
On ne sait même pas comment faire.
La vérité, c'est que l'un de vous, j'aurais pu vous poser cette question. Moi, je n'ai jamais fait de voile.
Alors, moi, j'ai fait un stage sur. J'ai fait un stage de voile
et
sur.
Ça, c'était à l'époque des pirates.
Non, sur le lac artificiel de Créteil. Voilà. Et c'était très chouette.
Comme vous le voyez, Younes, c'est un homme d'aventure avec un grand A.
Et ouais, moi j'ai pris des risques dans ma vie.
Et un homme de Créteil avec un grand C.
Ce Vendée Globe, il a été créé par un homme qui s'appelle Philippe Gentaud, dont on va reparler tout au long de cet épisode. Et un autre est soutenu par un autre qu'on aime. Pas vraiment, mais qui, est quand même, qui fait beaucoup de choses pour son département, qui s'appelle Philippe de Villiers, n'est-ce pas?
Oui.
Hein, d'ailleurs, écoutez bien notre numéro spécial Puy du Fou la semaine prochaine.
Sur la maltraitance des animaux.
Et Gentou, il a eu cette idée de Vendée Globe aussi en faisant une autre course importante qui s'appelle le Box Challenge, qui est organisée par les Anglais.
Oui. Donc l'idée a germé à ce moment-là.
Mais il y a des escales dans celle-ci, donc c'est un peu moins drôle.
Le Tour du Monde, ça a été fait la première fois par les Anglais, c'était en 68, ça s'appelait le Golden Globe Challenge, alors pas le Guadeloupe, le Golden Globe Challenge.
C'est pas mal
et
aussi.
Le mec a fait ça en 300 jours. Voilà, il y a eu qu'une édition, ça s'est transformé un peu, c'est devenu, comme tu le dis, le Box Challenge. Et il y avait beaucoup d'escales, ce qui saoulait un petit peu Gentaud, parce que les escales, selon lui, cassaient quelque chose.
Gentaud, il a pas un cousin. Hein.
Entre l'homme et le bateau. N'hésite pas à faire ta blague pendant que je parle. donc Kamel. Il a décidé de faire ce Vendée Globe sans escale, ce qui est évidemment beaucoup plus dur.
Mais, non, pardon.
Tu veux parler du cousin de Gentaud?
Oui, Kamel.
J'ai pas compris.
Ouais, moi non plus, je l'ai
pas. C'est pas grave.
Alors, en tout cas,
non, mais on peut dire donc cette course.
Oui, les quelques règles principales, s'il te plaît.
Moi, j'allais quand même vous citer d'autres grandes courses. J'avais envie.
Ah oui, vas-y, pardon.
Non, mais vous dire que vous connaissez peut-être le trophée Jules Verne du nom du footballeur.
Oui.
C'est un tour du monde réalisé en équipage. Donc, quand même beaucoup plus facile de dormir la nuit quand on est à plusieurs sur le bateau. Ensuite, il y a d'autres courses, la Volvo Ocean's Race, par exemple, qui est un tour du monde réalisé en équipage et par étapes. Donc là aussi, beaucoup plus facile parce qu'on s'arrête, donc on a le temps de se reposer. Et la route du Rhum qui est très
bien. Celle-ci, c'est ce que je préfère. Un bar toutes les demi-heures, c'est ça?
Exactement.
C'est la course de Sarah.
Celle-ci, je l'ai toujours gagnée.
Sarah préfère
courses,
celle-là.
Elle fait des courses, elle se vend des globes à elle. Ça s'appelle un marathon. Et c'est à pied.
Elle détient tous les records.
C'est vrai que Sarah, quand on lui demande de choisir entre Transat Jacques Vabre et route du Rhum, le choix est relativement rapide sur le nom du sponsor.
Ouais, ça va vite.
Non, donc ces courses sont mythiques, mais il n'y a pas ce caractère un peu fou de la course seule sur un bateau pour faire un tour du monde.
Un petit mot sur les règles. Donc, on a dit les trois bornes de passage, le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, le Cap Lewin en Australie. On fait tout le tour de l'Antarctique pour ensuite passer le Cap Horn. Et là, en général, au moment où on enregistre, les Cordillas sont en train de passer.
Ouais, il y en a qui l'ont déjà dépassé.
Il y a déjà Bestaven et compagnie qui les ont dépassés. Donc une fois qu'on est au Cap Horn, il y a encore une zone d'incertitude, mais c'est vraiment la rentrée, sachant que ce qui est le plus dur dans le passage, c'est vraiment les mers du sud, parce que on est très loin de toutes les terres et du coup les vagues ne peuvent pas se casser contre les terres, et en général il y a des tourbillons, c'est ce qu'on appelle les 40e rugissants puis les 50e rugissants, et ça fait très 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 peur.
Ça fait des murs d'eau de 10 mètres.
Ouais,
environ,
c'est ça. Cool.
Il y a
des bateaux qui se retrouvent à la verticale parfois.
C'est l'enfer. Il y a un dicton marin que j'aime beaucoup qui dit: au sud du quatrième parallèle, il n'y a plus de loi. au sud du 50e, il n'y a plus de Dieu.
Voilà, oh, c'est beau, ça me rappelle Aqua Boulevard.
J'ai vu des
j'adore Aqua Boulevard.
La seule fois que j'allais à Aqua Boulevard, j'ai vu des cafards, il y a plein de cafards dans l'eau.
Ouais, mais on s'en fout.
Et c'était...
Alors moi, je me suis fracassé le crâne à Aqua Boulevard. J'ai plongé dans tête la première.
Mais c'était l'Aqua Boulevard de Créteil.
Non, j'ai plongé tête la première. Tu sais le truc où tu te rinces les pieds?
Ah oui, le péduli, le pédiluve, pas le pédiluve.
Le péduli.
Le péduli, voilà.
Le pédiluve.
Alors j'enchaîne. Hein.
J'enchaîne en deux mots, en un mot. Vendée Globe, Vendée Globe.
Très bien. Janto.
Alors, n'hésitez pas à couper tout le monde pour dire ce genre de choses.
Non, mais cette course, elle va avoir lieu tous les 4 ans.
Oui, elle commence. Ouais. La première, c'est donc en 89. Ouais. Alors, il y a quand même un truc que j'aime bien. Parce qu'en fait, il y a un temps, je ne le savais pas, il y a un temps maximal pour le faire. C'est-à-dire que le premier de la course, le premier à terminer la course, le dernier de la première édition l'a fait en 163 jours. Donc
et on a décidé qu'il fallait faire mieux. Voilà.
Ce qui est déjà pas mal avec les bateaux d'aujourd'hui, c'est
nous,
pas mal.
Si on essaie de le faire, je pense qu'on fait 163 000 jours. Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais
ouais. Voilà, départ début novembre, comme toutes les courses du Vendée Globe.
Alors pourquoi début novembre?
Oui, pourquoi? Ouais. Parce que les conditions météo du Grand Sud sont meilleures là-bas, parce que c'est l'été austral et qu'il y a moins de risques là-bas.
Et pour avoir le max de pub, c'est un dimanche aussi, comme ça les gens peuvent venir voir le départ, etc.
C'est incroyable le monde qu'il y a. Ouais. C'est
et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a les gens qui sont aussi sur leur bateau et tout autour, c'est trop cool.
Alors j'ai jamais eu cette chance, de le faire, mais peut-être
qu'au le Vendée Globe table,
oui. Non, le départ en fait.
Non, moi je l'ai vu, on m'en a beaucoup parlé, tous les Vendéens m'en ont beaucoup parlé, j'ai vu des images, c'est juste. D'ailleurs, ça fait un peu peur parce que tout le monde s'ils vont pas tomber dans le chenal.
Oui.
Mais c'est assez impressionnant.
Alors donc, comme on l'a dit, le Vendée Globe est créé par Janto et la première édition va avoir lieu donc entre 1989 et 1990. Et je vous propose d'écouter juste un extrait. C'est la victoire de Titouan Lamassou, qui sera le premier vainqueur du Vendée Globe. Écoutez.
Au bout de l'étrave, les lumières de la ville. À bord d'écureuil d'Aquitaine, Titouan Lamassou accomplit les derniers gestes qui vont faire de lui un vainqueur. Minuit et 4 minutes, la ligne est franchie. Une étonnante soirée commence pour le skipper béarnais. Ce soir, le père et la fille paraissent également surpris de se retrouver là. Tout autour d'eux, à terre et en mer, des milliers de visages venus saluer ce que tous considèrent comme un exploit. Après 109 jours de solitude, cela fait vraiment beaucoup de monde.
Je ne m'attendais pas quand même à autant de monde. Et je sais pas quoi dire, parce que c'est. Moi je suis dans cette course depuis 3 ans et je vis avec. Et puis pour moi c'était presque devenu quelque chose de normal et apparemment dans l'esprit des gens c'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc Titouan Lamassou, premier vainqueur, on le connaît aussi pour ses dessins, Titouan Lamassou, qui sont
comme
très
Hitler.
Beaux.
Belles aquarelles.
Pardon.
Oui, donc Titouan Lamassou, il gagnera cette première édition en un peu plus de 109 jours.
Oui.
Ce qui est déjà exceptionnel, mais ça progresse très vite, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, on gagne, enfin le record aujourd'hui est de 74 jours pour le dernier Vendée Globe. Donc vous imaginez la progression
le Vendée Globe de 4 ans il ne cessera d'être battu, sauf la deuxième édition où Alain Gauthier en 92-93 fait moins que
mais c'était
Lamassou.
Un petit cru peut-être.
Et probablement très probablement l'édition là que le record de Armel Leclerc ne sera pas battu cette année. Mais voilà, et là, juste un petit mot pour parce que on a parlé de l'accueil en bon vendéen. Le père de ma copine me dit toujours faut pas voir le premier, il y a beaucoup plus d'ambiance quand c'est le dernier qui arrive.
Très bien.
Ça c'est beau.
Alors en tout cas
d'ailleurs je crois que le dernier actuellement et celui qui a terminé dernier il y a 4 ans.
C'est Destremo qui était en train d'abandonner un petit peu, qui n'en fait qu'à sa tête avec un bateau qui s'appelle Merci. Oui.
Ouais. Ça en dit beaucoup sur le public finalement, c'est un public de connaisseurs.
Et un public français.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque Vendée Globe mériterait son EPO et peut-être que d'ici 15 ans, ils auront tous leur EPO. Mais donc nous, on a choisi la la troisième édition, avec 15 concurrents au départ et seulement 6 à l'arrivée. Oui. C'est dire tout ce qu'on a à vous raconter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur les voiliers, les nouveautés de cette édition. Je sais que vous êtes des connaisseurs très fins des voiles, des voiliers, de tout ça, des bateaux. Vous connaissez, moi je connais, il y a une voile, un mât et voilà.
Alors déjà ce sont des voiliers de 60 pieds, c'est-à-dire il me semble à peu près
ça fait beaucoup
18
de pieds.
Mètres 28.
C'est comme un mille pattes.
Oui, c'est, tout à fait.
Ouais, je recompte. Avec, ouais, 18 mètres 28, ouais, comme
18
ça. Là,
mètres 28 attends, avec des mâts qui sont en général de 24 mètres. Ouais. Ok, donc souvent, faut imaginer.
C'est très grand.
Mer,
hein.
Mais c'est très grand, surtout quand le skipper doit monter tout en haut de son mât en pleine mer australe.
Chahuté,
et pour débloquer une voile.
Une drisse.
Voilà.
Alors que moi, j'ai toujours du mal à atteindre le niveau de l'étagère.
Il y a des nouvelles choses qui arrivent. On part du principe que souvent on dit que le Vendée Globe 96, c'est le premier Vendée Globe des ingénieurs.
Oui,
c'est-à-dire que
tout à fait.
En 89 ou en 92, c'était vraiment des aventuriers.
Des marins, aventuriers.
Des marins de métier, des gens qui sont plutôt
là, les
à la mer.
On va les présenter juste après, mais les hauticiers, les Christophe Auguin.
Ouais, on change de profil,
gens,
quoi.
Ouais. Ce sont des gens qui, techniquement aussi, connaissent leur bateau, ont des idées d'innovation, etc. Donc voilà,
t'as raison, et sur cette édition il y a pas mal de nouveautés. Donc il y a des nouveautés qui tiennent à la technologie du bateau, c'est ce dont tu parles. Il y a aussi des nouveautés qui sont apportées pour apporter plus de sécurité, tout simplement.
Qu'on l'a pas dit, il y a eu deux disparus sur l'édition précédente.
Exactement.
Ouais, Mike Plant et l'anglais Nigel Burgess.
Exactement. Donc on essaye de renforcer la sécurité.
Et finalement, effectivement, comme dans des sports automobile, je ramène ça un petit peu à la Formule 1, les progressions de sécurité ne se font que malheureusement au prix de décès. Et effectivement, cette course étant extrême, parce qu'on on parle du Vendée Globe et donc d'une course sans relais, sans possibilité avant justement cette course de 92-93 de pouvoir communiquer normalement, et ben effectivement les revendications ont été entendues, parce que sinon la course n'allait pas forcément enregistrer des participants, des gens volontaires.
Peut-être Thibaut, tu peux nous dire exactement les quelques nouveautés en termes de sécurité.
Oui, alors déjà on essaye de leur donner une meilleure visibilité côté météo, donc ils ont des données météo qui sont communiquées avec une visibilité à 3 jours, ce qui est déjà pas mal,
ce qui est rien comparé à maintenant, mais à l'époque
c'est quand même pas mal, surtout qu'on n'a rien au départ. Et puis il y a peut-être le plus important, un service médical qui est accessible 24h sur 24.
Oui, ça veut dire quoi techniquement? Ça, c'est une question que je me posais.
C'est que en fait ils ont un lien fax, radio, ils peuvent à tout moment dire ça va pas, aidez-moi, quoi.
Donc solliciter une armée locale,
on appelle SOS médecin, il y a vraiment un type en bateau qui arrive
Alors en revanche, si c'est vendredi 17h, il dit je serai là lundi à 9h,
je prenais ma pause, j'ai raté votre appel,
mais il répond dans l'heure, mais il sera là dans 3 jours. Mais ça c'est important, et il y a un outil qui permet ça, qui
la
paraît
radio.
Évident la radio, t'as raison, mais en 2021 ça paraît évident, mais le téléphone par satellite qui n'était pas utilisé avant, ou qui n'existait peut-être pas, je sais pas de quand il date exactement, en tout cas il n'était pas utilisé sur le Vendée Globe précédent.
Il n'était pas utilisé, mais il existe depuis longtemps.
Le téléphone.
J'ai coécrit le brevet.
Younes est le frère de monsieur Bell.
Il y a aussi un truc technique sur les bateaux qui est très important, parce qu'il va être extrêmement utilisé, et il va être ensuite maximisé au maximum
un
sur
moteur.
Les éditions d'après. Non, alors tu sais que les bateaux ont un moteur de secours.
Ouais, un moteur de secours.
C'est le CAM pour aller chercher Escoffier cette année.
Il a mis en marche son petit moteur.
D'accord. Et je vois, ça fait rien. Il a mis en marche son petit moteur. Il y a la quille basculante.
La quille basculante. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une quille?
Alors, j'ai
vu The Big Lebowski, hein, comme tout le monde.
Ouais, comme tout le monde. Déjà, c'est bien, on approche. Donc, c'est la partie la plus basse du bateau, la partie en dessous de la coque, la partie inférieure de la coque. Et en fait, c'est un système, la quille basculante, c'est un nouveau système de quille qui permet de faire fonctionner cette dernière comme un pendule qui permettrait de retrouver l'axe comme on le souhaite, et donc qui permet d'une part de jouer avec les vents, mais qui permet surtout d'avoir plus
de
sécurité.
J'ai une belle image pour ça, la poupée gigogne.
Ah oui, tout à fait. Alors, je vois. Bah alors,
c'est quoi la poupée
gigogne pour les auditeurs qui n'ont pas 73 ans?
Alors,
mais
un truc
c'est pour... bien pour ce public-là, donc tu laisses, on te laisse la parole.
C'est notre cible 2021, vous savez. Hein.
Alors, c'était une poupée qu'on offrait aux enfants dans les années 40. Et c'est une poupée qu'on n'arrive pas à basculer sur le dos, puisqu'elle se remet
tout
le temps à la verticale.
Voilà. Je vois
il y en a beaucoup en Alsace, des gigognes.
Tout à fait. Ouais. Et elle migre vers le sud. Voilà.
Pourquoi on n'a pas un jingle pour chacune de nos vannes?
Parce que ce serait trop long.
C'est vrai. Et donc, c'est qui basculante dont on parle? Auguin et Autissier, Isabelle Autissier, en seront dotés pour la course de 96-97.
Ouais.
Ça va leur servir.
Ça va sacrément leur servir. Après, sans rentrer dans les détails, il y a l'utilisation du carbone sur les mâts qui permet.
La coque aussi. Hein,
la coque,
ce qui a été critiqué parce que, en fait, du coup, ça rend certes le bateau beaucoup plus léger, mais du coup, au moindre contact avec ce qu'on appelle des ovnis, car sur mer, on appelle ça des ovnis. Alors, c'est. Oui. Un truc un peu foutraque pour dire tout et n'importe quoi. Ça concerne aussi les cétacés.
Un mot valise, malheureusement. Voilà. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, malheureusement, parce que ça concerne aussi les
ovnis. Oui, parce que cette année, il y a beaucoup de. Ah, il a percuté un ovni, on se demande ce que c'est. C'est possible parfois aussi des cétacés.
Une baleine.
Mais du coup, ça peut se percer très vite. Parce que c'est vrai. Très léger, la coque est très légère.
Et l'avantage du carbone, c'est d'apporter plus de légèreté. C'est utilisé sur les bateaux, mais c'est utilisé dans plein d'autres technologies. Et ça va quand même permettre à ces navigateurs d'avoir plus de mou.
Oui.
Alors, merci beaucoup. Je crois qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet pour cette troisième édition. Donc, comme j'ai dit, nous avons officiellement 15 skippers au départ. 13 hommes et 2 femmes, mais également un invité surprise, un pirate. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails sur ce casting? Est-ce qu'il y a des favoris, par exemple, dans cette édition?
Bien sûr, il y a 2 favoris qui se détachent. En fait, même, il y en a plusieurs, mais disons que 2, parce que Jerry Roof aussi est quand même sacrément costaud. On va parler de Christophe Auguin d'abord, qui est sur Geodis. C'est un prof de technologie.
Ça, j'ai trouvé ça trop cool.
Ouais, ça va rappeler un petit peu. Moi, en technologie, je trichais parce que j'étais très fort en français et nul en techno. Et j'avais Jérémy qui était très fort en techno et nul en français. Et je faisais faire moi-même les soudures, parce que, enfin, lui-même les soudures.
Moi, j'étais
un prof. C'était alors, Christophe Auguin, non?
Moi, c'était pas Christophe Auguin.
Ah, j'essaye de penser à mon prof de technologie qui aurait eu du mal à faire 50 mètres en brasse coulée. Et là, j'ai dit que
coup,
lui était un peu meilleur.
Il est un peu plus fort parce qu'il remporte la solitaire du Figaro 86. Il remporte le Bock Challenge, on en a parlé tout à l'heure, en 90-91, et c'est son premier Vendée Globe en 96. Il a une citation un peu cool, parce que lui, il va un peu à reculons, même s'il est un peu dans les favoris, il avait un peu reculé, parce qu'il a peur des mers du Sud. Et il dit: quand tu n'es jamais allé dans le Grand Sud, tu ne sais pas ce qui t'y attend. Quand tu y allais déjà 2 fois, comme moi, tu le sais. Et c'est pire.
Et il a aussi peur des bateaux. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Non, mais il est un peu stressé. Il y a une anecdote qui est plutôt, puisque c'est un très grand pote de Jerry Roof dont on va parler juste après. Ils boivent pour se préparer physiquement et mentalement. La veille de la course, ils se boivent des whisky au casino, des sables. Voilà.
Il y a toujours des petites histoires de marins sympas comme ça.
Oui.
Ensuite, on peut parler d'un autre concurrent qui est plutôt favori, qui s'appelle Yves Parlier.
Tout à fait.
Attends, juste une petite précision. Ouais. Les bateaux ont des noms. En fait, ces bateaux portent des noms de sponsors.
Tout à fait. Ouais, exactement, des partenaires.
Et effectivement, c'est relayé par les médias, notamment à la télévision. On dit, par exemple, pour Christophe Auguin, il est sur le Geodis. Ouais. Donc Geodis, c'est une marque.
Très bien. Et là, sur Yves Parlier, on est sur Aquitaine Innovation.
Voilà, donc ça veut dire.
Aquitaine, c'est une marque.
Ça veut dire que les financiers sont des marques et mais non, mais parce c'est des espaces publicitaires potentiels pour ces gens.
Parce que, on revient pas trop dessus, mais ça coûte très cher, en fait.
Voilà. C'est là où je voulais en venir.
Jean Le Cam aujourd'hui, c'est 1 million d'euros, mais il est 6 à 7 voire 10 fois moins cher que les bateaux, les foils les plus chers, donc il faut un investissement énorme. Donc Yves Parlier, lui c'est un passionné de voile qui fabrique son propre bateau pour gagner la Mini Transat, qui est une course transatlantique.
Il le fait 24 ans.
Ouais, 24 ans en voile, c'est vraiment très 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 jeune. Enfin, c'est un bel exploit. Il gagne des belles courses comme la solitaire du Figaro, et il a déjà participé à l'édition précédente du Vendée Globe. Malheureusement, il a dématé dans le golfe de Gascogne. Finalement, il terminera quand même quatrième en 125 jours, donc c'est un des favoris très expérimenté, qui a gagné plusieurs courses et qui a aussi gagné la Transat Jacques Vabre, puis la Route du Rhum. Bref, il a le CV idéal pour gagner la course.
Et il a un bateau ultra, comme son nom l'indique, très innovant.
Et oui.
Oui, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je veux.
Non, on s'en moque un peu, mais disons que par contre, son bateau va servir pour les autres générations de bateaux après. Donc ça, c'est voilà. Il y a aussi pas mal de skippers français. On va les classer un petit peu. Il y a bon, on va pas tous les citer, mais il y a Thierry Dubois.
Lui, il est pour Amnesty International pour le coup.
Des fois, c'est pas des marques, c'est des causes.
Samantha Davis avec Initiative Cœur cette année que j'adore. C'est pour ça que je parle beaucoup de Samantha Davis. Qui voilà. Donc lui, il est plutôt sérieux aussi. Il est assez jeune. Je me demande si c'est pas le concurrent le plus jeune.
C'est possible, t'as raison.
Il y a déjà un bateau cochonou, je me trompe.
Alors, alors on accueille Younes aujourd'hui, qui est un jeune participant.
Non, et puis dans les Français un peu connus, on a Marc Kierselin qui va faire en tout, je crois, si je ne me trompe pas, 4 Vendée Globe. Voilà, donc le dernier en 2008.
Ah, Bertrand de Broc. Déjà, il a un bateau qui a un joli nom, lui.
Oui, ça s'appelle vrai. Votre nom autour du monde. C'est sa deuxième participation parce que il participe en 92 et alors il est un peu connu parce que en 92 il se recoue lui-même sa langue. Voilà.
Moi je voulais parler en fait de ce qu'il fait. Il fait une sorte de ce qu'aujourd'hui on appelle un crowdfunding et réunit en fait sa somme pour pouvoir justement participer à travers une quête où il demande un chèque de 40 euros à peu près, les 40 euros aujourd'hui. Donc il demande aux gens de financer sa course.
Et parmi ses signatures,
il y a Jacques Chirac, génial,
qui lui aurait préféré a priori sponsoriser le cochonou, mais bon.
Et oui, mais il n'était pas disponible parce que Younes a pas réussi à le faire
valider. la langue tout seul sur son bateau, à te recoudre en 92, c'est quand même hallucinant.
C'est fascinant. Il y en a d'autres, Hervé Laurent, Didier Mounoutegui, et on remarque beaucoup de Français, mais il n'y a pas que des Français qui participent.
Non, ça attire aussi d'autres nationalités de grands marins, donc
notamment des Anglais qui sont les autres.
Les autres concurrents,
ouais, il y a toujours une petite rivalité chez les marins entre les Anglais et les Français. Et là, on a deux Anglais, Tony Bullimore, que j'aime bien sur Exit Challenger, parce que ce mec est un vrai businessman, c'est un vrai marin expérimenté, mais le mec fait tout dans la vie. Hein. Il a fait du porte-à-porte pour vendre des sous-vêtements, donc ça me fait beaucoup rire.
C'est génial.
C'est un mec qui en veut, quoi.
C'est un mec qui en veut. Ouais, je crois que c'est le plus âgé, lui, aura la différence de Dubois, c'est le plus âgé sur du parcours. Et on a Pete Goss sur Aquacorum qui il a carrément vendu sa maison et décidé de vivre dans un petit studio miteux avec sa famille, sa femme et ses trois enfants.
Ils doivent être contents, sa femme et ses enfants.
Financer son bateau.
Voilà. C'est là que tu vois qu'il y a de l'irrationnel, c'est des projets d'une vie et des mots comme ça en l'air, c'est une vérité en fait.
Il commence la course nu parce qu'il n'a pas de vêtements. Il a vendu ses vêtements pour pouvoir financer le bateau. Voilà.
Younes arrive nu, mais il ne nous amène jamais sur son bateau.
Citer rapidement, donc on a Nando. Dorfa qui est un Hongrois qui a construit aussi lui-même son bateau, un Belge, Patrick de Radiguès et surtout le Canadien Jerry Roof.
Oui, on adore. Alors, c'est un aptonyme, le Roof. Un aptonyme, c'est quand tu as un nom qui correspond à ton métier. Par exemple, je connais quelqu'un au théâtre, il s'appelle Monsieur Trac et il travaille dans un théâtre. Et bien, le Roof, c'est une partie du bateau. Donc, c'est rigolo parce qu'il s'appelle Jerry Roof.
C'est beau, ça.
C'est comme s'il s'appelait Jean-Jacques Coq ou Robert.
Robert Voile,
c'est comme Emmanuel Macron, non ?
Non, et donc Gary Ouf, il est très expérimenté, c'est un bon outsider pour la victoire finale. Peut-être évoquer aussi deux femmes qui participent à
pour la première fois.
Exactement, c'est la première fois qu'il y a deux femmes qui vont venir compléter ce tableau. Et donc c'est Catherine Chabot et Isabelle Autissier. Et je vous propose juste d'écouter quelques mots de Catherine Chabot qui explique pourquoi elle se lance dans cette course.
La décision a été prise en 5 minutes. Mais ça fait 4 ans que je pense réellement au Vendée Globe. J'étais là il y a 4 ans sur les pontons à regarder les autres se préparer. J'étais là sur la ligne de départ. J'étais là à l'arrivée d'Alain Gauthier. Et je me suis dit, je serai au départ du Vendée Globe 96.
Et elle y est.
Est-ce qu'elle va aller au bout? Il faut écouter tout ce podcast pour le savoir.
Mystère et boule de gomme. Et pour compléter ce tableau rapidement, il y a celui que la presse va surnommer le pirate. Qui est-il? Pourquoi? En fait, ils sont 15 concurrents plus 1. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça?
Il fait partie de ceux qui n'ont pas réussi justement à valider leur budget, à valider leur bateau. Et bon, alors, il a été surnommé par la presse, il les a bien aidés. Hein. Il a quand même hissé le pavillon noir au départ. Donc, il revendiquait aussi cette piraterie, on va dire, psychologique, pour pouvoir dire quoi qu'il en coûte, je le ferai, je ne serai pas dans les clous. Et puis, l'entourage, quand même, notamment Isabelle Autissier. vient le voir en le pas en le décourageant, mais en lui expliquant que c'est, il fait quand même une grosse connerie.
Ben, si je comprends bien, le principal problème, c'est qu'en fait, comme il fait pas la course officiellement,
oui, les assurances ne le couvrent pas.
Voilà, et enfin, il ne bénéficie pas forcément de la même sécurité que les autres. Il se met un peu en danger, quoi.
Tout à fait. Et il n'a pas la même assistance.
Et, ouais. Oui, voilà. Et en fait, on le verra plus tard. Et il met aussi peut-être en danger les autres.
Ouais.
Oui. Mmh. Et un pirate, en fait, c'est juste le nom qu'on utilise pour dire quelqu'un qui commence, parce qu'il y en a eu d'autres ensuite.
Ouais.
Bah, notamment Chabot, 4 ans après.
Oui.
C'est la personne qui fait vraiment le hors-course, qui prend le départ, mais qui le fait hors-course.
C'est son hors-piste à lui, mais c'est un peu plus compliqué dans le cadre de Vendée Globe.
Voilà.
Alors, c'est parti. Nous sommes le 3 novembre 1996.
Oui. Tout à fait.
La corne du bru marquant le départ retentit.
Il est 15h.
Et nos marins prennent la mer. Oui. Racontez-moi ce début de course.
Eh bien, ça se passe bien.
Bien.
C'est contrairement à l'équipe EPO, tout le monde réussit à sortir du port. voilà. Au départ, on va dire que les leaders se succèdent plus ou moins. Le premier départ, c'est vraiment ce qu'on appelle le golfe de Gascogne, puisqu'il y a un anticyclone et puis l'anticyclone des Açores. Puis après, on arrive à ce qu'on appelle le poteau noir. Où, alors là, il y a plein de tourbillons, etc.
C'est moins beau que le poteau feu.
Donc, tout ça. Ah, excellent.
Excellent. Et c'est facile à trouver que le poteau rose.
Alors moi j'allais demander si c'était en deux ou trois mots, mais face à la médiocrité de la précédente, Olivier, je...
Eh bien je continue pour une fois, je ne surenchéris pas et je continue. Oui. Dans les premières encablures de la course, c'est Bertrand de Brock et son bateau Votre nom autour du monde, hein, comme c'est
beau
Sarah,
c'est
qui fait la course en tête, suivi par Auguin et l'autre favori, Yves Parlier, en sortie du golfe de Gascogne. Figurez-vous que c'est Cocorico, pas du tout, mais parce que c'est une femme et qu'on l'aime, c'est Isabelle Autissier qui arrive. Ensuite, il y a Hervé Laurent qui est pas loin. Et là, mais par contre, il y a déjà de la casse au bout de quelques jours. Oui. Chez trois, non pas un, non pas deux, mais trois skippers, savoir Nandorfa, sa quille bouge, comme dirait la jeune mariée.
Ce n'est pas une contrepétrie.
Thierry Dubois, qui a une fissure dans la coque. Et
ce n'est pas une contrepétrie non plus.
Et Tony Bullimore, qui a, je ne sais pas, je n'ai pas écrit sur mes notes, mais qui doit. Et donc tous les trois, ils sont obligés de rentrer au sable de la.
Oui, alors
mais
il y a un règlement.
Ils ont le droit.
Au sable.
Au sable. Ils seront obligés de rentrer
au sable.
On peut le faire. Sable, oui. Au port d'Olona. Au sable d'Olonne.
Ah, donc c'est une escale, mais enfin, c'est pas tout à fait une
parce
escale.
Parce qu'en fait, on a le droit. Enfin, aujourd'hui, c'est 10 jours. Je ne sais pas, en 96, peut-être que vous nous le direz. On a le droit à 10 jours où on revient au port des sables pour repartir ensuite. On peut continuer à gagner la course. Je crois que c'est ce qu'a fait Desjoyeaux, peut-être, ou Gabart. Je ne me souviens plus sur un Vendée Globe. Il avait une couille au départ. Il est resté 3 jours à réparer. Donc il est parti 3 jours après les autres. Ouais. Il a quand même réussi à gagner le Vendée Globe.
Pas mal.
C'est magnifique.
Avec une couille, c'est fort.
Moi, j'aime bien quand Olivier nous raconte les premiers jours parce que c'est comme s'il nous racontait un 100 mètres d'Usain Bolt.
Oui. En tout cas, Dubois et Bullimore, eux, vont réussir à se relancer dans la course. Pour Nandorfa, ça va être un peu plus compliqué, je crois, le pauvre.
Pas belle, mais hongrois rêvé, parce qu'il part, donc il part le 3, il revient le 5 au sable à cause de sa fameuse qui baladeuse.
Ouais, il y a eu plusieurs plaintes, d'ailleurs.
T'as raison d'en parler, Sarah, et on sensibilise tout le monde à ça.
Hashtag MeToo.
Le pauvre.
Les qui baladeuses, c'est fini.
En plus, je crois que c'est un mec super.
Oui.
Il revient au sable le 14 novembre. Pourquoi? Parce qu'il a percuté un cargo.
Non, en plus, ça se voit un cargo.
Attends, le mec, il dort. C'est pas possible.
Certainement. Une grande sieste.
Il repart et puis il a une panne de générateur. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Il abandonne. Pour la petite histoire, donc il abandonne. C'est fini pour Nandorfa. Ça y est, on l'oublie.
Ça nous donne une idée d'un tour du monde de Younes quand même.
C'est pour la petite histoire. En 2017-2018, il prend le départ. Personne n'y croit parce que c'est l'un des plus vieux skippers. C'est même le plus vieux à ce moment-là pour s'élancer. Et il finit 8e.
Ah, c'est cool. Donc il finira quand même ce Vendée Globe.
Comme voilà. Quoi, il faut persévérer.
Et oui. Et que donc, se passe-t-il pendant ce temps en tête de course après le golfe de Gascogne?
Bah, Yves Parlier fait la course en tête devant Autissier, Laurent De Brock. Mais attention pour Yves. On rappelle que Yves, c'est quoi son bateau? C'est Aquitaine Innovation, c'est le grand favori avec Auguin. Mais Yves, il a que des emmerdes.
Oh non,
bah, déjà, il part avec quelque chose qui est un peu un handicap. Il n'a pas de désalinisateur. Qu'est-ce que c'est?
Ça enlève le sel de l'eau.
Merci.
Wow, et en fait, pourquoi tu fais 20 minutes avant la fin du monde?
Et en fait, quand on boit la tasse, quand on prend la vague et qu'on boit la tasse, c'est pas très agréable. Et donc, ça ne se consomme pas. Et son eau, eh ben, il en perd la moitié.
Mais ça, comment il la perd? Bon, je vous pose des questions ultra précises.
Il la renverse.
Il la renverse, simplement. Tout simplement.
Bon, alors, il était un peu bourré.
Il a voulu faire un pastis Ricard, il a trop dosé. Puis,
mais en fait, c'est là qu'on se rend compte le nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte en fait, pour gagner une course. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'eau, bah, c'est fini, en fait,
sachant
tout simplement.
Que, sachant qu'on ne l'a pas dit au départ, mais tout est rationné. Tout est rationné pour faire un certain nombre de jours de course.
Oui, on y mange de la nourriture, ce n'est pas des gigots qu'il y a dans les frigos.
Je pourrais pas emporter mon Coca Light sur le bateau.
Alors peut-être un seul pour le jour de l'an.
Il n'y aura pas de moussaka, il n'y aura pas de gratin de chinois. Non, il n'y a rien de tout ça.
Par exemple, au gâteau à l'orange. Ouais. Eh ben, je sais pas si tout pour l'emporter.
Le parmentier, c'est fini.
Non, mais après, en vrai, le pauvre
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la personne à ma gauche qui égrène le menu de la cantine de
Créteil. Donc, le Yves Parlier, il va avoir pas mal de merde.
Ça va être le départ. Le potable, ça va pas être le seul. Il va avoir plusieurs avaries, comme on dit dans le métier, dans le jargon. Il va avoir un problème.
Comme Jérôme.
En gros, il va avoir des problèmes de voile, de cordage tout le mois de novembre, voilà, et il va essayer de réparer, mais il pourra pas, il sera obligé de faire escale en Australie. On fait une avancée dans le temps
parce que
jusqu'à Noël, c'est à Noël, la veille de Noël, qu'il abandonne. Et parlait, donc c'est
qui dit escale dit abandon.
Dit, et donc et un énorme favori qui s'en va, donc ça fait déjà deux. Nandorfa, Parlier, ça fera trois avec, bon, on se moque un peu puisqu'on le connaît pas trop, à Didier Mundo Tegui.
Ah, je suis contente que ça n'ait pas été à moi de prononcer ce nom.
Qui fait un dématage, hein, ce qui arrive très fréquemment dans le Vendée Globe.
C'est quoi un dématage?
C'est quand on m'a voilà.
Alors Olivier a fait des gestes comme s'il tournait une roue.
Mais c'est parce qu'on est sur une prochaine version de PO en vidéo.
Très bien.
Le PO live, ça arrive bientôt.
Et vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Et
donc, oui, comme toujours.
Qui est en
fait après l'abandon de Parlier, c'est Autissier et Auguin qui prennent la tête.
Ouais.
Direction les 40e du rugissant avec deux points d'exclamation. Donc c'est vraiment que c'est un gros moment important de la course. Là encore, il va se passer un événement climatique comme il s'en passe beaucoup dans une course comme celle-là. On est le 1er décembre et les skippers doivent affronter une grosse tempête, et notamment Isabelle Autissier sur son bateau PRB. Un de ces safrans se casse. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un safran?
Oui. C'est de l'épice. LOL.
Ah, mais oui, c'est une épice, c'est vrai. Mais c'est surtout la partie qui est dans l'eau du gouvernail. Le gouvernail, vous savez, c'est ce qui permet de diriger le bateau.
C'est un grand volant.
Ouais, exactement. Ouais. Et qui permet de dévier le flux d'eau sous le bateau, sous la coque du bateau. Bref,
donc ça sert vraiment à faire pivoter le bateau. Le safran, si c'est cassé, c'est chiant.
C'est très pénible et elle doit justement rejoindre une terre pour essayer de le réparer. Elle va rejoindre...
Ah non, Isabelle.
Ah non, bah c'est fini,
elle
toi.
Elle va
alors
rejoindre l'Afrique du Sud, le Cap, et donc elle s'arrête. Quand elle s'arrête, abandon. Voilà.
Mais elle va quand même repartir en hors compétition.
Parce qu'ils ne sont pas là que pour la compète.
Oui. Elle fait ce que font certains quand même, c'est de décider de continuer malgré tout.
Ouais,
en sachant que le classement général sera. C'est fini.
Oui.
Mais déjà, parfois pour le sponsor et aussi pour leur propre aventure personnelle, aventure avec. Un grand art.
Et là, pour le coup, c'est pas de l'ego parce qu'on est vraiment au-delà. Hein. On est vraiment sur l'aventure en elle-même, en fait.
Et donc, c'est Auguin qui désormais fait seul la course en tête dans l'océan Indien. Mais le 25 décembre, jour de Noël, jour de la naissance du petit Jésus, ou peut-être c'est le 24, j'en sais rien, tous les regards vont se tourner vers un autre concurrent. Le pirate a besoin d'aide.
Oui, Raphaël, il commence un peu à nous emmerder. Enfin non, mais
il a causé des soucis à
tout le monde.
À ce moment-là, il nous fait chier quand même.
Alors Raphaël Dinelli, le fameux pirate qui est par hors course, il va chavirer tout simplement.
Et ben voilà, celui qui voulait faire le mariole au départ, et ben il se retrouve la tête dans l'eau.
Après, c'était pas très malin de commencer ce tour du monde en planche à voile. Hein. on lui avait dit, mais.
Alors moi j'aime bien son nom de bateau, son bateau c'est Algimous.
Le petit bonhomme
Mousse pour la papa
qui s'élance et rate le plongeoir.
Et du coup il chavire.
Moi je l'avais pas, j'avais le petit Pimous, le truc.
Ouais, on sait pas ce que tu veux dire, Younes, on enchaîne. Du coup, alors ça c'est quand même un peu chaud. Nous sommes
on a filé d'autres notes à Younes.
Nous sommes le 25 décembre, c'est Noël. Il envoie une balise de détresse, ça permet de voir à la direction de course, ça permet que le bateau est en extrême détresse.
Urgence. Ça dit, venez me chercher.
Dans ce cas-là, c'est on arrête tout, venez me chercher, je suis en train de couler.
C'est quand même culotté. Enfin, moi, je tiens à le dire, à ce moment-là. tu te dis ah bah tu l'as bien cherché mon con.
Donc
alors,
tu l'as bien cherché, mais faut imaginer ce que c'est. C'est quand même assez incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'océan, le bateau se retourne. Du coup, le mât aussi. Et ce qui s'est passé avec Raphaël Nélé, c'est que le mât en plus a perforé le bateau. Ouais. Ce qui fait que toute la voie d'eau, parce que le bateau est composé de trois compartiments étanches. Mais du coup, toute l'eau est partie
Bateau. Le temps de réaction est extrêmement court. Même s'il y a des parties étanches dans le bateau, tu n'as que quelques minutes et encore.
Là, il est dans l'eau. Ouais. Il y a quelques secondes pour réagir, à se dire qu'est-ce que je vais faire. En fait, je vais crever.
Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment, comme on le dit souvent, des Formule 1 des mers. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont fragiles. Elles vont très vite, mais en un coup, comme le montre Olivier, ils peuvent se retrouver en danger de mort.
Bon, il a quand même de la chance.
Qui va aller lui porter secours?
Pete.
Pete. On en parlait. L'anglais Pete Goss qui a vendu sa maison et qui fait vivre ses enfants dans un placard pour
celui qui vendait des sous féminins.
Et au moins avant le divorce, il pourra sauver un navigateur. C'est déjà pas mal.
Pete Goss qui le jour de Noël va lui porter assistance, parce qu'en général c'est ce qui se fait, c'est-à-dire que
c'est le plus proche.
Voilà, c'est le plus proche qui va aider. Et en général, et c'est d'ailleurs ce que dit Pete Goss, on ne réfléchit pas une seule seconde. Ça fait partie de la valeur des marins, des principes des marins.
Le code de l'honneur
qui est très important d'aller aider évidemment le marin en détresse.
Ils y sont un peu obligés d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, on leur demande d'aller dans le bateau.
C'est une obligation, mais c'est une obligation personnelle en fait.
Mais elle est morale, évidemment qu'ils le feraient.
C'est un sacerdoce quand t'aimes.
Moi, j'irai jamais.
Non, mais par exemple, ce qui se passait avec Escoffier.
T'es une pirate, toi.
Escoffier et Le Cam.
Cette année, lui, il a chaviré, c'était très très chaud. Et Le Cam est arrivé, mais il y a eu trois autres, on en parle pas.
Exactement.
C'est Le Cam, mais il y a Herman, Bestaven et je ne sais plus
qui.
Je ne sais plus qui.
Mais lui a fait plus de. C'est vrai.
Il réussit à le retrouver.
En tout cas, il affronte aussi la tempête, Pete Goss, parce qu'il va le rejoindre là où il y a la tempête. Il va chavirer à plusieurs reprises avant de pouvoir localiser Dinelli. Dinelli qui a pu rejoindre un radeau de survie.
Oui, c'est-à-dire
qui était lancé par un avion.
Oui, tout à fait. L'avion, il ne peut pas du tout circuler. Les hélicoptères sont trop loin pour venir l'aider. Oui. Donc, on lance un radeau de survie. Alors là, franchement, le mec est sur la coque de bateau, il y a des vagues partout. Il se tient à la coque et là il saute.
Ouais, c'est miraculeux. C'est
quand même rejoindre.
Oui, oui. C'est ouf.
Chaque geste est miraculeux.
On ne se rend absolument pas compte à quel point c'est impossible en fait. Et en plus, il doit ensuite tenir 24 heures le temps que Pete Goss revienne de son point de départ, parce qu'ils étaient à 230 km,
ouais, c'est ça,
pour aller le chercher dans son radeau.
Exactement. Et au moment en plus où lui, son bateau est en fait en train de couler, donc il a vraiment une chance absolument folle. Et je vous propose d'écouter un petit reportage sur ce magnifique sauvetage.
Il y a une image quand même qu'on conservera, une image très forte. Bon, tout s'est bien terminé, mais c'est vrai que tout le monde a eu très très peur. C'est l'image la plus forte jusqu'à présent de ce troisième Vendée Globe. Regardez cette tache blanche sur l'eau, c'est un bateau qui est en train de couler. Et la petite silhouette noire que vous venez de voir, c'est Raphaël Dinelli qui est debout sur le pont d'un bateau qui coule. Les sauveteurs australiens viennent de lui larguer un radeau de survie grâce à leur avion. Pendant ce temps, il y a Pete Goss, concurrent du Vendée Globe, qui fait route vers lui dans une tempête effroyable, et voilà qu'il le récupère. Cette espèce d'image brouillée de mauvaise qualité, prise à partir de cet avion, eh bien c'est l'image d'un miracle, purement et simplement, car à quelques heures près, Raphaël Dinelli aurait bien pu ne jamais voir arriver les secours.
Et donc Pete Goss récupère un Dinelli assez mal en point hein, quand même.
Marqué forcément.
Ouais. Tu te rends compte.
La température en mer et enfin en tout cas voilà, effectivement il est dans une forme de ce qu'on dit souvent aujourd'hui de sidération, donc sous le choc, et il le récupère et il prend soin de lui pendant 12 jours.
Oui, c'est vraiment son infirmière. C'est assez beau l'histoire, parce que donc j'ai lu sur les notes de tes notes, Younes d'ailleurs, que du coup Pete Goss est le témoin de Dinelli à son mariage.
Et oui, ça a créé en fait des liens suffisamment forts pour pouvoir finalement faire quasiment les meilleurs amis du monde.
Ouais.
Et effectivement,
ils participeront ensemble à la Transat Jacques Vabre et ils termineront cinquième. Donc
ils font une course.
Ils font un double Roland Garros.
Exactement.
Suite,
tout à fait. Mais ils perdent en finale en revanche. Graf Navratilova était trop forte.
C'est pas vrai ça.
Et Dinelli deviendra par la suite un grand militant écologiste.
Me plaît, parce que ça me fait penser à Sarah.
Et oui.
Et tout ce qui nous fait penser à Sarah nous plaît.
Oui. Ça dépend.
Et me fait plaisir.
Ça dépend certaines fuites.
Avant que certaines fuites.
Cuit.
Oh là 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 là. Celle-là, on peut la couper aussi.
On va laisser là notre pirate et je vous propose de faire une petite pause musicale avant de retrouver nos autres navigateurs.
j'entendais de loin s'écraser contre terre, écumé de colère d'être ainsi rejeté, au pied de pauvres dunes sur d'indignes rochers, lui pourtant si puissant, pourtant si volontaire. On courait sur les dunes et il apparaissait, et parfois il daignait nous couvrir d'écume. Un de ces jours bleu-gris où sa colère montait contre la terre et les humeurs de la lune, l'océan. Il n'en finissait pas comme la vie lointaine, qu'on aurait quand plus tard il faudrait être vieux. N'en finissait pas comme les mille semaines qu'en septembre passé s'éteignaient tous les feux que l'eau salée attisait en nous-mêmes, que les enfants d'Éole entretenaient furieux. Cette douce violence qui nous brûlait les yeux dès qu'on entrait en lui et qui noyait nos peines. L'océan. Ma ligne de vie venait à se casser, j'aimerais pour finir avoir encore le temps de monter sur la dune et le voir écumer. J'aimerais pour finir regarder l'océan comme lorsqu'on courait et qu'il apparaissait et qu'on criait de joie ivre de sa colère. Craignez pas et nous en étions fiers. C'était la même colère qui en nous s'élevait. L'océan.
Qu'avons-nous écouté?
C'était Dominique à l'océan.
Merci beaucoup.
Un grand A.
Dominique A comme aventure, oui. Comme RER.
Et donc, nous revenons à notre course. Nous sommes début janvier et les ennuis sont loin d'être terminés pour nos petits skippers.
Et oui,
parce que le A, c'est aussi le grand A de l'apocalypse.
Oh, magnifique.
Et le A de Dominique A.
On vient de le dire, Younes.
Je dirais mon grand-père.
Donc, l'apocalypse.
L'apocalypse.
De Jean.
Nous sommes, nous avions parlé de deux skippers,
oui,
au départ qui avaient été obligés de revenir au sable, à savoir Thierry Dubois et Tony Bullimore, qui sont repartis, même si Thierry Dubois le fait hors course. Ça, on ne le dit pas.
Ah ouais,
souvent,
il est hors course.
Mais il est hors course à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils sont tout proches l'un de l'autre et malheureusement. Ils sont à peu près à 1400 miles au sud-ouest de Perth, qui est vers l'Australie, quoi. Et tout d'un coup, il y a une énorme tempête, et tout d'un coup, les deux tombent à l'eau.
Donc ils déclenchent leur balise de détresse presque en même temps.
Ouais. Déclenchent leur balise de détresse et Dubois qui le fait, ça y est, son bateau est déjà retourné, déjà en train de chavirer, et il le fait sur la coque de son voilier.
Il monte sur sa coque et en fait j'ai lu que normalement il voulait se mettre dans son radeau de survie, mais son radeau de survie casse. Et donc, il n'a plus de radeau de survie à ce moment-là.
Donc, c'est l'enfer.
Et ils sont tous les deux à plus de 3 jours de mer des secours. Et pourtant, il va falloir, falloir faire assez rapidement.
Et, oui.
Et donc, en fait, c'est un avion de la Royal Australian Navy qui va les apercevoir tous les deux.
C'est beau, ça.
Dubois, donc, en combinaison sur son bateau. Mais par contre, pas de signe de Bullimore.
Non, on voit le bateau donc retourner de Bullimore, mais on ne le voit pas, Bullimore, du tout.
Et je vous propose d'écouter quelques mots sur ce moment.
La nuit dernière, les militaires ont une nouvelle fois survolé le canot de survie du Français Thierry Dubois. La nuit prochaine, une fois la frégate arrivée à proximité, il sera temps d'élitroyer un homme qui vit dans des conditions plus que précaires depuis 3 jours.
Maintenant, il est dans une sorte d'igloo, à l'abri, lui également, du vent et des embruns. Il a de la nourriture, donc la nourriture, c'est de l'énergie, et cette énergie va lui servir à fabriquer lui-même de la chaleur pour réchauffer son corps.
La nuit dernière, le bateau retourné de Tony Bullimore a été survolé lui aussi. Des balises sonores lancées à proximité de l'embarcation n'ont donné aucune indication quant à la présence du navigateur à bord. Le temps passe et l'espoir diminue. Rouve, Dubois, Bullimore, tout ce que l'on peut faire désormais, c'est leur souhaiter de connaître le même sort que Raphaël Guinelli, le miraculé des mers du Sud, qui était en perdition avant Noël. Secouru en pleine mer par un concurrent, Guinelli est arrivé hier soir à Hobart, en Tasmanie. Heureusement, il y a parfois des fortunes de mer qui se terminent bien.
Alors, comme vous avez pu l'entendre, au bout de 3 jours, en fait, Dubois a finalement récupéré un radeau de survie qu'on lui a envoyé depuis un avion. Donc, exactement un peu comme avec Guinelli, hein, il s'est jeté dans la mer déchaînée pour rejoindre son radeau de survie et il attend qu'un navire puisse se rapprocher pour le récupérer.
Il n'y a plus que ça à faire, en fait, hein, dans cette situation. Déjà que tu as survécu au retournement et puis, en fait, tu ne fais que prier.
Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 jours.
3 jours, ouais.
Trois jours tout seul en mer sur son radeau. Alors, certes, il a des barres énergétiques ou je ne sais pas quoi.
Ouais, mais bon, enfin, là, c'est de la drogue.
Faut savoir, le radeau de survie, c'est plus petit qu'une salle de bain à Paris. Hein. C'est vraiment minuscule.
Tu n'as pas vu la mienne, mais.
Tu as le jacuzzi, toi, c'est
mais
vrai.
Non, mais tu m'invites jamais aussi.
C'est vrai.
On fait toujours ça chez Younes.
Ouais, mais on aime bien Créteil.
Ça pue la naphtaline.
Mais Dubois, finalement, il sera récupéré. Alors. Par une frégate, mais seulement au bout
Exactement.
De 3 jours, comme tu
le dis. Au bout de 3 jours, il est frigorifié. Il y a cette frégate Adélaïde qui le récupère. Donc, c'est plutôt une aubaine pour lui. On pense que ça va se finir bien, mais on est mort d'inquiétude pour Bullimore, dont on n'a pas vu la trace du tout pendant 3 jours.
Et il est où en fait, Bullimore ?
Et oui, ben oui, dis-nous ça, Thibaut.
Ben, c'est pas Bullimore, c'est Bully vivant.
Oh !
Non, Bullimore, en fait, il est recroquevillé dans la carcasse de son bateau et il va y rester 96 heures. Donc là, c'est carrément du délire, en fait.
Là,
imaginez
4
jours. Donc il est évidemment frigorifié, il meurt de froid.
Ouais.
Et c'est la frégate qui a récupéré Tony Bullimore, qui va passer à côté de l'autre bateau pour vérifier quand même qu'il n'est pas là. Et heureusement.
T'as raison, il aurait pu mourir pas bêtement, mais.
Et alors là, quand Bullimore sort, il dit parce que lui se voyait vraiment partir. Enfin, quand on entend son interview, il est vraiment là. Il dit tous les jours, je me voyais partir. Je pensais à ma femme à qui j'avais pas assez parlé. Je pensais que c'était terminé.
Est-ce que tu crois qu'il lui a assez parlé après?
Moi, j'espère qu'il s'est bien rattrapé le bougre.
On espère.
Il se massait
les jambes,
les jambes, les
pour pas
les
en perdre
bras,
le
etc.,
contact
pour pas perdre le contact
et que la circulation
et pour que la circulation puisse se faire. Il faut savoir que dans ce cas-là, il faut surtout pas fermer les yeux non plus. Donc il essaie de se tenir éveillé.
Il faut pas s'endormir.
C'est une torture.
C'est une simple torture.
Ouais.
Et en plus de ça, très vite au départ, il a voulu récupérer son canot de sauvetage qui était à l'autre bout du bateau retourné. Ouais. Hein, donc déjà, moi je suis mort minute une. voilà. Je dis bonjour les requins, les dauphins, mangez-moi. Donc il veut récupérer son canot de sauvetage, il y arrive, il revient dans sa cabine pour se mettre à l'abri, et là la cabine se referme sur sa main et il perd.
Ah, il coupe un bout de doigt.
Et ce qu'il dit, la première chose que j'ai vue, c'est mon doigt, mais j'ai rien ressenti, j'avais tellement froid, heureusement pour lui. Mais voilà, donc quand quand il voit Thierry Dubois et la frégate Adélaïde, alors là il dira que c'est, il avait vraiment l'impression d'être au paradis.
Ouais.
C'est vraiment un miracle, hein. 5000 personnes viennent d'ailleurs les accueillir en héros à perte. Mais le soulagement en fait est d'assez courte durée, hein, parce que on rappelle en fait ils ont chaviré le 5, ils sont récupérés le 9. Et entre-temps, depuis le 7 janvier, il y a un autre marin dont on n'a plus de nouvelles. C'est Géry Rouff, lui qui n'a même pas, mis sa balise de détresse. Il a disparu des radars. Quelques mots sur ce qui s'est passé.
Géry Rouff, c'est le mec qu'on aime bien, c'est le fêtard, c'est celui qui a toujours le sourire, c'est celui aussi qui est là pour la gagne. C'est un grand compétiteur. Géry Rouff, c'est aussi le seul, c'est celui qui va le plus au sud. Qui dit plus au sud dit se rapprocher. Maintenant, au Vendée Globe, il y a une ligne de démarcation qu'on n'a pas le droit
de dépasser.
Voilà, là, à l'époque, pas encore. Il va plus au sud, c'est là où il y a les icebergs, c'est là où il y a l'Antarctique, c'est là où la mer est encore plus agitée et qu'en plus de la mer agitée, on peut rencontrer des icebergs. Donc, il va le plus au sud. Peut-être parce qu'il voit que Isabelle Autissier, même si elle est hors course, se rapproche et peut-être que c'est une fierté, c'est sa fierté qui est en jeu.
On ne sait pas pour le moment, mais effectivement.
On ne saura jamais.
On ne saura pas pour le moment. Pour le moment, nous n'en savons rien.
Voilà, donc,
parce que Younes, il cherche toujours Géry. Hein,
il ne faut pas perdre espoir.
Géry, il est incroyable. Il parle entre eux beaucoup avec Autissier. La dernière phrase de Géry, ce sera le 6 janvier. Il envoie un message en décrivant les vagues qui sont autour de lui, des vagues de plus de 80 nœuds, c'est énorme. Et il dit, les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes. Et ensuite,
belle épitaphe,
plus rien.
Oui, donc plus rien, aucun mot, on ne sait pas où il est. Et Isabelle Autissier, qui est une des plus proches de lui, va décider d'aller le retrouver. Et donc, elle part dans le Pacifique. On est dans le Pacifique Sud. Hein.
Ouais.
C'est un endroit extrêmement éloigné de toute terre. Ouais, et les vagues sont toujours très violentes. Et elle va affronter la tempête, vraiment.
Met tout en œuvre pour le retrouver. Donc, c'est-à-dire, la personne la plus proche se met en route pour la retrouver. Les bateaux ou les cargos qu'on identifie essayent de faire route vers l'endroit. Et le directeur de course... comprend très vite qu'il y a un problème grave.
C'est d'autant plus symbolique. Alors, c'est le point Nemo, c'est ce qu'on appelle le point Nemo,
le point éloigné de
la Terre. Donc, c'est vraiment le pire endroit où on peut chavirer. Isabelle Autissier, ils n'arrêtaient pas de parler tous les deux, à s'envoyer des messages de réconfort parce qu'ils étaient tous les deux dans la tempête. Autissier, je crois qu'elle va même chavirer plusieurs fois, se retourner.
Son bateau se retourne six fois, je crois.
Et c'est là où la quille basculante, merci, parce que le bateau est remis sur pied.
Merci le progrès.
Et c'est un peu terrible.
C'est un peu comme la poupée gigogne, non,
c'est
Younes?
Un peu pour la...
C'est tout à fait ça.
C'est un peu terrible parce que Autissier va essayer de le chercher pendant 48 heures au point le plus proche de sa dernière émission. Et
elle va jamais trouver le bateau.
Elle va jamais trouver le bateau. Elle va décider à un moment donné qu'il ne faut pas non plus qu'elle se mette en danger elle-même. Donc avec l'autorisation du Cross, qui est celui qui gère un petit peu et qui lui dit « Ok, tu peux repartir. »
Parce qu'on est pas...
on va lui reprocher.
Ouais.
On va lui reprocher.
C'est horrible. Notamment, je crois que c'est notamment Philippe Gentot. On l'a même pas dit, Philippe Gentot qui a créé le Vendée Globe, qui a participé au premier, mais qui ensuite devient en fait directeur.
Oui, tout à fait. C'est important, tu as raison. On n'a pas dit que c'était lui-même un navigateur.
Il va dire cette phrase terrible. Il va dire « Moi, j'ai dormi 8 ou 9 heures, j'ai suivi en permanence les sauvetages, tout le monde s'est donné à fond et j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment du départ de
Tissier. » Ça, c'est franchement dégueulasse.
Alors qu'à un moment donné, d'ailleurs, elle a été soutenue par la
plupart
des
autres
marins,
navigateurs. Ouais.
On ne peut pas risquer plusieurs vies, malheureusement.
Non, mais on n'est pas dans le soldat Ryan, tu vois. Au bout d'un moment, tu peux pas envoyer tout un peloton pour sauver une personne.
Et pourtant, tu cherches toujours.
Bah, surtout que tous les soldats, le soldat Tom Hanks, pour le coup, ça aurait servi à rien là, parce que voilà.
En tout cas, 48 heures plus tard, Géry Rouff et son bateau sont toujours introuvables. Il y a d'autres secours qui arrivent un peu sur zone, mais on ne trouve toujours pas de trace de son bateau.
Cargo, satellite, tout est tenté pour essayer de trouver.
Satellite canadien, des avions australiens.
Mais trouver un bateau qui s'est retourné.
Pierre Selin, Laurent oui. aussi.
Vous l'avez dit, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est quasi impossible.
En fait. En plus, les conditions météorologiques continuent à être très mauvaises et empêchent en fait de voir. Et effectivement, c'est ce que tu dis, empêchent de voir en fait un bateau retourner sur la mer. Et donc on s'accroche au moindre espoir. Il y a un avion chilien qui croit être entré en contact avec lui à un moment au bout d'une semaine, mais malheureusement ce n'était pas lui. Marc Tiercelin, qui est donc un autre concurrent, dira « Je suis stressé, je ne dors presque plus, je suis fatigué et inquiet, c'est très dangereux, il y a de la brume et beaucoup d'icebergs, la mer est la plus forte, c'est très dur ici, trop dur. » Et au bout de 10 jours, les recherches sont interrompues et Jiri Roof et son bateau sont déclarés perdus corps et bien. Quelle tristesse.
C'est très triste.
Une expression consacrée, mais très triste.
La mer est la plus forte et ça se prouve encore une fois, malheureusement. On retrouvera la coque de groupe LG2, son bateau, le 16 juillet 97, pardon. Elle sera identifiée en 98 au large du Chili. Sa femme a publié un ouvrage sur ça qui s'appelle Une Atalaya, c'est le nom de l'île où la coque a été retrouvée. La fille de Jiri Roof, parce qu'il avait une femme et une fille, Emma, a fait un documentaire qui s'appelle Atalaya. Il y a une chanson aussi de Jim Corcoran qui s'appelle L'Aube Tarde.
Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter quelques mots de sa femme et de sa fille.
Il y a un cyclone Ophelia sur l'Australie et qui perturbe tout le système météo du sud.
J'avais peur. Je ne devrais pas le montrer à ma fille non plus. Mais je me disais, mon Dieu, dans quelle histoire on est. On faisait des cauchemars, on dormait pas. On était avec lui.
C'est triste qu'il soit plus là, en fait. Il aurait voulu vivre, il n'aurait pas voulu probablement mourir ainsi.
Cet événement nous montre aussi la chance qu'ont eu les deux autres dont on vous a parlé juste avant. En fait,
et même tous les autres.
Hein, tous les autres,
Dubois, Bullimore.
Escoffier
cette année.
C'est un risque qu'ils prennent, ils en sont évidemment conscients, mais on ne s'habitue jamais à ça. En tout cas, on n'est jamais véritablement préparé à mourir.
Et d'ailleurs, malgré la disparition de Jiri Roof, la course va continuer, mais dans une ambiance assez lourde, forcément, surtout que c'est un ami en plus de plusieurs d'entre eux.
C'est drôle parce que j'ai vu une interview par hasard d'Autissier qui parlait de Jiri Roof. Et c'est drôle, les marins, la façon qu'ils ont de parler des disparus. Ils ont une pudeur,
oui.
Et en même temps une force. Et c'est presque, pour nous, ça m'a presque pas choqué, mais enfin, j'étais, waouh, on dirait qu'elle a pas d'émotion. Mais je pense qu'ils sont tellement
endurcis à l'idée que ça peut leur arriver aussi.
Ouais, et c'est
ça a pu leur arriver. Ils ont connu cette peur et ce danger en fait.
Ils vivent avec la mort en fait.
Oui.
Voilà.
Et puis certainement que les conditions météo, les éléments à cette échelle, quand tu les rencontres dans ta vie, te change aussi profondément. Quand on est face à des murs de vagues qui ressemblent à des montagnes, j'ai l'impression qu'on, nous, autour de cette table, on n'a pas eu le sentiment un jour de vivre ça, et que du point de vue d'un marin, je crois que ça doit fondamentalement te changer.
Non, c'est certain. Ça vaut pas la colline de Créteil, mais c'est vrai, Younes, t'as raison.
Ah non, non, rien ne vaut la colline de Créteil.
Et donc en cette édition, en fait, vous l'avez compris, elle a été jalonnée par des abandons. Il y a un dernier dont on n'a pas parlé, c'est celui de Bertrand de Brock, qui est un concurrent dont en revanche, on vous a déjà parlé au cours de l'édition précédente, parce qu'il s'était recousu la langue. Malheureusement, il va abandonner à 300 miles de l'arrivée, c'est quasiment rien, en fait.
Ah ouais.
Il était déjà hors course parce qu'il avait dû s'arrêter, faire une pause technique, mais il avait décidé de repartir.
Pardon. Oui. Non, c'est la pause technique.
Ah, la pause technique. Il a repris la mer et malheureusement, il a chaviré et abandonné. Il fera un dernier Vendée Globe en 2012-2013 qu'il terminera à la 9e place.
Et je crois qu'il en fera un aussi en 2016 et il abandonne.
Oui, alors voilà, pardon, c'est le seul qui terminera, celui de 2012-2013.
Donc en tout cas, quand on passe la ligne d'arrivée, on a 6 navigateurs alors qu'on était 15 plus 1 au départ. Yes. C'est dire
les calculs ne sont pas bons, Kevin.
Ce sont pas la grimace.
Dans une ambiance en plus extrêmement lourde.
Bah, oui.
Et c'est Christophe Auguin qui passe la ligne d'arrivée le premier.
Qui bat le record. record de Titouan Lamazou, en 105 jours, 20 heures et 31 minutes. Mais en fait, on s'en fout lui-même. On a l'impression qu'il s'en fout un peu. Alors, mais moi, déjà, il est épuisé mentalement, il est épuisé physiquement. Il est atteint aussi par la mort de son ami, en fait, Jerry Roof. Il déclara, l'une de ses premières déclarations, quand même, c'est, après sa victoire, je préfère arrêter avant de devenir chauve et édenté. Voilà.
Ensuite, on a Marc Tiercelin, dont on a pas mal parlé aussi, qui terminera deuxième, relativement loin du premier, un peu plus d'une semaine après, en 113 jours, 8 heures et 26 minutes.
D'ailleurs, c'est pour l'histoire stats, c'est le Vendée Globe où il y a eu le plus d'écart entre le premier et le deuxième.
Oui, à l'inverse de la dernière, de l'avant-dernière édition entre Gabart et Leclerc, avec moins de 3 heures d'écart, ce qui est délirant sur 70 jours de course.
Et il y a deux nouveautés à l'arrivée de cette course.
Ah oui,
tout à fait.
Mais oui, la première, c'est laquelle?
Catherine Chabot.
Alors
on va commencer par celle-là.
Ok, on commence par celle-ci. Je voulais la garder pour la fin.
Younes veut commencer par celle-ci. Alors, Younes à l'honneur.
Vas-y.
Et bien, c'est la première femme à finir la course dans l'histoire, tout simplement.
Ah, tout à fait, en 140 jours. Donc, bravo, elle inspirera d'autres femmes. On pense à MacArthur, on pense à Samantha Davis, on en pense à d'autres aussi qui vont finir.
Respect infini des marins, et donc voilà. Les choses avancent.
Et le deuxième fun fact, Sarah.
Deuxième fun fact,
c'est que Pete Goss est le premier navigateur à l'arrivée non français.
C'est rigolo quand même.
Et c'est bien qu'il termine, c'est bien qu'il soit classé. C'est lui qui avait aidé Dinelli.
Exactement.
C'est une belle histoire.
Bah moi, en général, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'avec ce bilan, qui est quand même assez chaotique, à aucun moment la course n'a été remise en question. À aucun moment on ne la discute et on ne débat autour. C'est ce qui m'impressionne en fait.
Ouais, mais c'est le cas en fait dans beaucoup de sports. Regarde, quand tu penses aux 24 heures du Mans ou des choses comme ça, on va mettre en place des normes de sécurité, mais jamais on se dit on arrête, c'est trop dangereux, ou la Formule 1. Enfin,
oui, non, t'as raison, ça arrive.
C'est vrai, à chaque fois on se dit
que
la sécurité doit être améliorée, mais qu'on ne remet pas complètement en question l'événement.
Et puis,
parce que c'est après... renoncer, c'est une mort définitive en fait, arrêter la course pour toujours. Donc on ne peut pas s'y résoudre.
Il y a à la fois, je pense, des enjeux économiques, bien sûr, toujours. Oui. Mais il y a aussi... Enfin, je pense que les sportifs les eux-mêmes, ils veulent ça. Oui. C'est ce qui,
les
ça
navigateurs
fait partie de...
sont les premiers à alimenter, entre guillemets, cette envie et cette aspiration à l'aventure.
Je pense que le navigateur
disparu... Une aventure avec un grand A. Ouais.
Et l'adrénaline avec un grand A.
Le navigateur disparu ne voudrait pas que la course s'arrête parce qu'il est disparu. Ouais. Enfin,
non, clairement. Oui, oui. T'as raison.
Alors, pour terminer cette très grande balade en mer, peut-être quelques mots justement sur l'après et sur les quelques 2-3 conséquences de cette course fortement endeuillée.
Bah, y a eu des petites choses techniques d'améliorer. De toute façon, ça ne cesse de s'améliorer. Maintenant, on est face à des vrais Formule 1 des mers de plus en plus. Le pilote automatique qui va se perfectionner d'année en année. Les fameuses quilles basculantes qui vont être adoptées par tous les bateaux. Les formes aussi vont être créées pour faciliter le retour à l'endroit, et il y aura des tests sur les bateaux, mais encore plus de tests.
Le développement qui coûte forcément plus cher aussi.
Maintenant, on est sur des bateaux à 15 millions.
Voilà, donc on parle quand même d'une forme d'envolée au niveau des prix, au niveau de l'investissement.
Surtout que maintenant, il y a une nouvelle apparition sur les bateaux cette année, c'est ce qu'on appelle les foils, qui sont des ailerons de chaque côté du bateau, qui permettent vraiment presque au bateau de voler, de fendre l'eau. Et il y a eu des débats un petit peu sur cette année-là, notamment avec le chavirage d'Escoffier, peut-être que ça fera j'utilise aussi.
Oui, avec la quantité d'OVNI aussi qui se multiplie, puisqu'on parle d'un océan d'une sorte de continent supplémentaire, complètement une grande poubelle en fait qui flotte dans l'océan Atlantique. Et effectivement, la capacité, la fréquence et le potentiel de rencontrer en fait des OVNI est multiplié avec le temps, et la pollution qui ne fait que grandir.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore sur cette émission?
On est pas mal, non, là, je crois.
Je pense qu'on a fait à peu près le tour.
Et puis, de toute façon, vous le savez, s'il y a des précisions, elles seront sur Twitter, les vidéos,
alors,
les liens.
Alors, tu dis ça, mais j'ai mis un lien aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Okay. Ah. J'ai mis le but de loco.
Ils vont savoir quand est-ce qu'on enregistre. T'es fou.
Ils vont pouvoir
nous retrouver.
Et je vais
ils seront tous à la sortie. Oh là là, faudra signer des autographes, ce sera terrible.
Ah, terrible. Bon, eh bien, je vous propose donc de passer avec beaucoup de bonheur et un peu plus de légèreté à l'antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc, il fallait faire la petite chose. Come on.
Et c'est Thibaut qui s'y est collé cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt d'ailleurs, oui. Car nous sommes au mensuel. Oui. Hey.
Nous sommes le 19 mai 1996.
Ouh. Oh, je m'en souviens.
Non, Younes, c'est pas vrai. C'est une mise en situation. Tu peux attendre ta compote et ton goûter qui arrive dans 10 minutes.
Ah, merci.
Alors que s'est-il passé le 19 mai 1996 ? Ce jour-là, un dimanche, Younes est bien tourmenté car il approche la crise de la soixantaine. Ce même jour, Sophie Davant fête ses 33 ans et Paul Potts ses 70 printemps. Sarah commande des cheeseburgers petites frites Coca Light au McDo de Saint-Germain avec la carte bleue de sa maman Dominique, que l'on salue.
Bonjour.
Olivier bafouille déjà devant ses propres blagues avant de les raconter à ses copains au collège des Ulysse à Vierzon. Et Chloé attend sagement de nous expliquer comment fonctionne Discord dans l'utérus de sa maman.
Alors Albert Camus, le collège.
Albert Camus, si tu veux, on parle de basket après. Journée historique donc pour nous tous et surtout pour le sport français. Marseillaise, Sarah, s'il vous plaît. Parce
allons
que vous le savez.
Allons, enfants de la patrie.
Merci, Sarah.
Jour de gloire est arrivé.
Parce que moi, j'aime la France. Le 19 mai 1996, après une hécatombe digne d'un Vendée Globe 96 qui se déroulera seulement quelques mois plus tard, Olivier Panis entre dans l'histoire du sport français en écrivant l'une des plus belles et improbables pages de la Formule 1 française.
Oui.
Il remporte le mythique Grand Prix de Monaco,
oui.
22 pilotes au départ, seulement 3 à l'arrivée qui verront le drapeau à damier, marquant la fin de la course, mieux que le Vendée Globe. Remballez vos petits bateaux, remballez vos Formule 1 des mers et montez dans ma Formule 1.
3 seulement à l'arrivée et
alors oui, je sais Sarah, la Formule 1, ça t'intéresse pas vraiment.
Non.
Alors, et t'as tort.
Pour que Panis gagne, il fallait ça, hein, je pense.
Et la méchanceté.
Oui.
Alors, vous avez peut-être vu quelques images de Formule 1 dans la série Drive to Survive d'un petit concurrent de PO qui monte, qui s'appelle Netflix. On vous conseille d'y faire un petit tour pour soutenir et augmenter l'audience de ce petit site. Alors, c'est 20 maboules qui sont prêts à aller à plus de 300 km/h sur des bijoux de technologie pour se disputer le titre de pilote le plus rapide de la planète. C'est un peu con, c'est vrai. Dans des circuits complètement pollués aux quatre coins de l'humonde. Du pétrole à gogo, ce qui fait plaisir à Sarah. Bref, il y a tout ce dont vous pouvez rêver. À ce petit jeu-là, il y a des grands noms auxquels on pense immédiatement. Peut-être vous pensez à Fangio, qui était un grand champion des années 50.
Alain Prost.
Ah, ouais, non mais c'est ça, la rivalité Senna-Prost dans les années 80-90.
Je te rappelle qu'on a fait un épisode sur Senna.
Je sais. Ouais.
La domination outrancière de Michael Schumacher.
Schumacher.
Et oui,
les années 90, début années 2000.
Forme de quiz, vas-y.
Oui. Lewis Hamilton. Drôle, ouais.
Les exploits récents de qui?
Lewis Hamilton.
Oui, non, et Lewis Hamilton qui est programmé pour gagner depuis qu'il a 12 ans chez Mercedes.
Et
oui. Peut-être
et la victoire
un champion.
De Pierre Gasly. Cocorico.
Tout à fait.
Lewis oui. Hamilton, je ne sais pas s'il est encore avec Nicole Scherzinger,
non,
une des chanteuses
non,
de
ça, je ne sais pas.
Ah, c'est un peu plus longtemps.
Retour chez le coiffeur, l'RT Magazine, hein, excuse-moi.
Mais
oui. Mais...
un grand champion hein. Espagnol que vous connaissez peut-être
bien
aussi.
Bien sûr, Fernando Alonso.
Voilà, chez Renault. Chez Renault cette année.
Eh oui.
Tout à fait, on voit qu'ils sont à la page, comme on dit chez les vieux, comme Younes.
Parce qu'on fait un podcast sur le sport.
Tout à fait. Alors en Formule 1,
du sport.
En Formule 1, il y a surtout un grand prix mythique. C'est celui de Monaco. Synonyme d'excès en tout genre, d'images saisissantes ou des bolides surpuissants circulent à toute vapeur. Oui, Sarah ?
On y a été, Thibaut.
C'est vrai.
Enfin, en fait,
vrai,
on avait pas assez de place pour tout le monde, donc on a fait des roulements et chacun a vu genre deux tours du Grand Prix.
Bravo. Très bien.
On y allait,
très
c'est
bien.
Une anecdote.
Ça change du hack de Créteil. Hein.
C'est pour ça qu'on
pareil.
Voit pas Younes le week-end. Donc ils sont là, dans les rues sinueuses de la principauté, devant un public hilar qui mange ses petits beurres et ses cronenbourgs sur des yachts placés devant le circuit.
Hein.
Enfin, c'est beau, quoi.
C'était un circuit en ville.
Ce circuit de Monaco, tous les pilotes rêvent de le gagner.
Oui.
Olivier Panis réalisera ce rêve alors que rien ne le prédestinait à cela et même
à part son prénom.
C'est vrai. Et qu'on peut le dire, il n'avait aucune chance de gagner au volant de sa voiture Ligier. Quand on dit Ligier, déjà, on voit que ça sonne mal. Par rapport à Williams, Renault ou Ferrari, il y a un petit problème. C'est le charme de Monaco qui couronne à la fois les grands champions, mais qui aussi permet à des héros improbables d'un jour de gagner des courses.
Alors, bien.
En 96, Olivier Panis, c'est un pilote d'une trentaine d'années qui attaque sa troisième saison en Formule 1. Il est bon, mais non plus pas exceptionnel. Il fait des bonnes choses. Son écurie, elle se casse la gueule. Ça va pas très bien. Ils sont à deux doigts de fermer la boutique. On se dit que vraiment, c'est pas fait pour lui, la Formule 1.
Et pourtant.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Monte Carlo.
Il va gagner.
Eh bien, la Ligier, c'est le panache à la française, messieurs, dames. Eh oui, c'est une écurie française, donc déjà, il n'y a pas d'argent à l'intérieur, contrairement aux autres écuries. C'est le petit problème. On est loin des Williams-Renault, que vous connaissez peut-être, de Jacques Villeneuve, Damon Hill.
Bien sûr.
Eux-mêmes des fils d'eux.
Mais oui.
Graham Hill.
Tout à fait.
Gilles Villeneuve, des grands pilotes de Formule 1.
Feu.
Feu, tout à fait.
Oui.
Michael Schumacher, Eddie Irvine.
Ah non, ça va. Je sais pas, il a dit feu et tout le monde était content. Alors.
Donc, en Formule 1, vous le savez, il y a des qualifications qui se déroulent le samedi.
Et oui.
Et là, on a une hiérarchie classique. Tout le monde s'en fout. C'est Schumacher qui est premier. Il a le meilleur temps. Il s'élancera devant Damon Hill, devant Jean Alesi.
Et voilà.
Bon, la course.
On établit la grille de départ.
Et notre petit Olivier Panis, il est combien ? Il part 14e.
Et ouais.
Il n'y avait pas Mika Hakkinen à l'époque.
Si, il y était, mais il n'était pas encore au top.
Ouais,
il allait y arriver.
Entre Schumacher et
à la toute fin des années 90, il allait y arriver. Et le dimanche matin, le jour de la course, patatras, la météo se mêle au rendez-vous. Il pleut des cordes, à ce qu'on appelle le warm-up, Younes.
Eh oui.
C'est un mot anglais, le repérage.
Oui, tout à fait.
Grosse averse.
On chauffe les gommes.
Ah, exactement. Quand on fonce vers le goûter, on dit ça, hein. Allez pas, Younes, hein. On chauffe la gomme.
On chauffe la gomme.
Donc la course.
Laissez-moi passer.
La course débute à 14h, l'heure du dîner chez Younes. Il n'y a plus de pluie. Mais c'est une piste encore mouillée sur les premiers tours. Et là, il y a un coup de génie des techniciens de Ligier. Oui, oui, ils ont des techniciens quand même.
Alors, je tiens
ils
à dire qu'à 14h, je fais une sieste.
Parce que chez Ligier, on n'a pas d'argent, mais on a des idées.
Ah, c'est beau.
Et qu'est-ce qui se passe ?
La France de Giscard.
Ils ont du bol, mais ils sont un peu malins. Ils font des petits calculs. Ouais, mais si, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Poincaré, 96. Ils font des calculs de consommation avant la course et ils se disent « Ah, mais... » S'il pleut plus au 27-28e tour, on n'a qu'à blinder la bagnole de Panis, notre petite chèvre, de plein d'essence. Comme ça, il n'aura pas besoin de s'arrêter. Les autres, eux, devront s'arrêter.
Et
coup
bah
de génie. Panis part avec un réservoir rempli comme un coffre de 4L quand Olivier rentre à Vierzon. 145 litres dans le réservoir pour les 78 tours de course. La course commence. On assiste à un des plus beaux spectacles de danse sur pluie de la décennie.
Il était bourré comme une cantine.
J'aime beaucoup cette expression. J'ai l'image. 5 voitures partent dans le décor dans le premier tour.
Wow.
Ah oui.
Ça, c'est dingue quand même, non ? Sur les 21 du départ, c'est énorme.
Eh oui, mais c'est la pluie ça.
Et qui c'est qui fait partie du lot ? Michael Schumacher.
Non.
Premier tour,
allez,
bam.
Bam.
Elle est où notre tortue Panis ? Elle est 11e après le premier tour. C'est déjà pas mal.
Doucement mais sûrement.
Puis rapidement 9e après une quinzaine de tours. Et des incidents mécaniques et des sorties de route à gogo et de ses congénères.
Oui, oui. Mais c'est l'étroitesse hein, de la piste hein, qui crée ça.
Tout à fait.
Technique cette course.
Vers le 25e tour, la piste s'assèche et commence le grand balai des arrêts au stand pour changer les pneus. On passe sur des pneus secs, puisqu'il ne pleut plus.
Oui.
Hey, tous s'arrêtent, Panis aussi change ses pneus. Sauf que Panis malin, il n'a pas besoin de remettre de l'essence, donc il fait un arrêt au stand beaucoup plus rapide que les autres.
Et
il ressort 7e.
J'ai une question, pourquoi est-ce que les autres, ils n'ont pas le réservoir plein ? Parce que tu roules plus vite avec un réservoir
Exactement.
Plus vide.
Ouais. Oui. Donc il avait une voiture alourdie, mais en même temps, comme ça roulait pas très vite, il n'a pas perdu tant que ça.
Oui,
donc ils ont fait
ça.
Ce calcul un peu qui était pas qui est malin a posteriori, mais qui pouvait
mouillé,
être débile.
Comme c'est mouillé, les gens vont de toute manière moins vite, donc si ta voiture est un peu plus lourde, c'est pas trop grave.
Okay, j'ai compris. Quand le sol est mouillé, on freine plus tôt.
Oui, oui.
Mais la Formule 1, c'est toujours ce genre de calcul débile. Si ça s'était asséché 5 tours avant, il aurait quand même pas eu assez d'essence et ça n'aurait pas suffi. Donc
j'ai compris.
Toujours assez malin. Bon, autant vous dire que là, il est 7e, puis 4e
c'est
de la
feu.
Course, c'est
et
le feu.
Et là,
on ouvre toutes les bouteilles de clairette de Die et de champomie dans l'écurie Ligier. C'est la folie pure.
Il y avait de l'oasis aussi. Hein.
Mais le plus beau reste à venir, Younes.
Oui.
Parce que moi, je ne vous raconte que des belles histoires.
Ouais.
Là, notre torture entre carrément en transe. Il est coincé derrière un pilote irlandais qui s'appelait Eddie Irvine.
Bien
c'est
sûr.
Un bon pilote. Et là, il va montrer qu'il est aussi un pilote talentueux. Sur un virage à l'épingle, il double le vieil Irlandais sur un dépassement musclé qui restera un modèle d'école. On vous posera évidemment la vidéo sur Twitter parce
et
que
oui.
C'est sacrément beau à voir.
Et il lui chope l'aspiration, comme jamais.
C'est plus une tortue, c'est un escargot qui est maintenant 3e de la course.
Ouais.
Sarah, Olivier et Younes transpirent à grosses gouttes, je les vois.
Oui, oui, oui.
On dirait du Patrick Montel, continue.
Oui, il reste deux indéboulonnables. Il reste Damon Hill, le large leader sur sa Williams Renault,
un
buzzer sur son kart.
Ouais.
30 secondes devant Jean Alesi, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais ça aussi c'est le panache à la française et c'est la grosse lose à la française. Il est lui sur sa Benetton Renault, accroché à la deuxième place.
Ouais.
Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la Providence va sonner à la porte. Non, il n'y a personne à la porte, Younes. C'est une expression. Coup de tonnerre, 40e tour.
J'ai connu une Espagnole qui s'appelait Providence.
On ne veut pas la suite. Au 40e tour, Et là, il a du bol, notre Panis. Au 40e tour, la Williams Renault de Damon Hill part en fumée. Imaginez-vous, panne moteur. Ça fait 3 ans que c'est pas arrivé sur une Williams Renault. 60 courses que le moteur est fiable.
Oh
et là, il explose
oui.
Pour faire plaisir à Olivier.
Oui, attends, pour
ça, veut
Olivier.
Dire, ça veut dire que pendant un temps, on a 2 Français en tête de la course à Monaco.
Ouais. J'ai envie de te dire que Dieu roule sur Ligier et sur Benetton. À ce moment précis, tu as raison Olivier, tu es le seul à suivre Sarah et Lunès d'or. Jean Alesi est premier, Olivier Pianis deuxième, Coco Rifko, mais on s'en fout de Jeannot.
Oui.
Pourquoi on s'en fout? Parce que nous on aime les outsiders.
On veut Olivier.
Et il l'est pas totalement, Jean Alesi. Et là, il va arriver ce qui symbolise toute la carrière de Jean Alesi. Jeannot est en tête.
Gravier.
Jeannot sent un problème sur sa voiture à l'arrière, il s'arrête. On lui dit non, c'est bon, ok, tu peux redémarrer. Il dit si, il y a un problème. Il se réarrête. En fait, il a un problème de suspension. Il abandonne. Olivier Panis est en tête d'un Grand Prix de Formule 1. Va-t-il résister?
À personne, il est seul.
il nous gratifie alors dans les derniers tours d'une dernière acrobatie. Il part tout droit dans la chicane du port, ce qui est interdit. Et il fait alors un tête-à-queue volontaire pour revenir à son point de départ et échapper à la pénalité à laquelle il aurait eu droit. Parce que quand tu coupes tout droit sur un circuit... Malin, Olivier, il est habitué aux sorties de route. Il connaît ce genre de petites choses. Franchira-t-il les 76 tours indemnes? La réponse, c'est oui et c'est non. Pourquoi? Parce qu'il n'aura même pas besoin de finir les 76 tours, puisque la course atteint les 2 heures de temps et que dans ces cas-là, on fige le classement quand on atteint 2 heures. On va même pas jusqu'au bout.
On décrète le podium à 2 heures.
Tout à fait. Olivier Panis est le grand vainqueur du grand contre-la-montre de Monaco. C'est plus une course. Devant le Britannique David Coulthard et l'autre Britannique Johnny Herbert. Ils sont seulement 3 à l'arrivée, de quoi dresser le podium relativement facilement. 6 voitures finiront classées, car ayant atteint 90% du total des tours du vainqueur, décidément c'est un Grand Prix qui nécessitait de bien connaître le règlement.
Donc allez-y, est classé quand même.
Et oui.
Tout à fait, il est classé. Ce jour-là, Olivier Panis...
Le règlement encore plus difficile qu'au rugby.
Oh, calme-toi avec le rugby. Ce jour-là, Olivier Panis a vécu la plus belle journée de sa vie. Il a réalisé la plus belle remontée de l'histoire du Grand Prix de Monaco, la 2e remontée de l'histoire de la F1, en partant de la 14e place jusqu'à la 1ère. Avec l'intelligence et l'aide de ses techniciens, avec son talent, avec l'aide de la pluie, c'est vrai, avec son panache à la française, je le répète, Olivier Panis a marqué l'histoire de la Formule 1 française. Tous les ingrédients qui font quand même la beauté de la Formule 1 et qui étaient réunis ce jour-là. Bien sûr, je vous rassure, il ne gagnera jamais un Grand Prix. C'est ça qui est beau. Je crois qu'il terminera la saison avec 14 points alors qu'il en prend 10 sur ce Grand Prix. Et il faudra attendre, Younes en a parlé, le 6 septembre 2020, 24 ans après,
Pierre,
pour voir la Marseillaise retentir de nouveau sur un Grand Prix. Vive la France, vive le sport, Younes, le goûter arrive.
Et oui, vive Pierre Gasly.
Merci beaucoup Thibaut. Et puis merci à tous pour votre présence ce
merci
soir.
Merci tout le monde.
On embrasse Chloé qui n'était pas avec nous ce
soir. Oui, Covid, hein.
La vérité, c'est qu'elle a préféré rejoindre un podcast plus rémunérateur. Elle ne pouvait pas s'aligner.
OPE.
OPE.
Elle choisit un podcast rémunéré.
Elle fait déjà partie d'OPA et qui est un bon podcast finance.
En tout cas, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle année qu'on espère un peu plus douce que l'année 2020, mais on n'en sait rien.
Oui.
Optimiste.
Non, on est optimiste.
On est optimiste.
On croit en nos rêves. On croit en cette année 2021.
Oui.
Vivement le printemps.
Oui. Et puis.
On a des surprises pour le printemps.
Oh, on espère. Des surprises cette année. Faut le dire.
On l'avait déjà l'année dernière, la surprise. Hein.
Non, cette année, dans notre podcast, nous, on a des surprises.
Oui. Mais on l'avait déjà l'année dernière quand même.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je voudrais vous dire autre chose.
Oui.
Écoutez relire Tintin. Écoutez 20 minutes avant la fin du monde. Oui. Écoutez 2 heures de perdu.
Tout à fait.
Écoutez Culture 2000.
Culture 2000.
Écoutez EPO. Et puis on se retrouve le mois prochain et on vous embrasse très fort.
Oui, on vous embrasse.
Merci à tous.
Bisous,
on vous embrasse.
Tout le monde.
Plein de bisous. The Peace.